Isabelle Fontaine, bonjour.
Bonjour Steve.
Revenons sur ces Jeux de la francophonie, si tu le veux bien.
Ben oui, visiblement la balle est dans le camp du gouvernement du Québec. Hein. Je pense que le maire a été pas mal clair là-dessus. C'est ce qu'on comprend aussi de la décision qui a été prise hier. Une décision très, très raisonnable. On sent que le conseil municipal est particulièrement prudent. Une évaluation des coûts en deçà de ce qui avait été évalué initialement. Moi, je pense que c'était quand même la bonne stratégie à adopter. T'sais. Puis finalement, avec du recul, on se dit que peut-être le maire, en fermant la porte d'emblée, a créé un contexte propice à ce que la réflexion se fasse sans que personne s'emballe et qu'on arrive à un oui avec des conditions très, très strictes qui, je pense, sont tout à fait raisonnables à ce stade-ci.
Oui, tout à fait. Et l'affaire qui m'étonne un peu, moi, c'est, de prime abord, le gouvernement provincial qui semble quand même réticent. Je comprends, puis l'argument de M. Lucie est très bon. Il ne l'avait pas budgété. Bon, puis là, il va falloir sortir peut-être un 20-25 millions, peut-être un petit peu plus pour compenser tout ça. Mais en même temps, as-tu vraiment le choix?
Bien, en même temps, tu regardes l'expérience du Nouveau-Brunswick, ça te refroidit un gouvernement provincial, je peux te le dire. Après ça, le cahier de charge n'est pas connu. On entend aussi à travers les branches que les organisations, les autres pays qui viennent participer au Jeux de la francophonie sont parfois très exigeants en termes de services d'accueil, tout ça. Et tous ces frais-là, la télédiffusion, tout ça, c'est assumé par, ce serait assumé par le gouvernement du Québec. Ou en tout cas, ça reste à négocier. Mm-hmm. Puis ça sera important dans la facture finale. Et là, le gouvernement du Québec doit décider s'il dépose ou pas la demande. Mais en même temps, je pense qu'il doit prendre la même position que celle que la Ville a jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une position prudente. On n'est plus en 2015 où il fallait séduire l'OIF pour accueillir les Jeux, pour les convaincre qu'on était meilleurs parmi toutes les candidatures. On est à un moment où il faut négocier avec l'OIF pour un peu sauver la mise. T'sais. Donc, je pense que là, on a encore... Le Québec a le gros bout du bâton pour faire en sorte que ça, d'obtenir les Jeux pour Sherbrooke, mais à un prix raisonnable. Puis je pense que c'est très correct que le gouvernement du Québec le fasse de façon prudente.
Tu amènes un aspect nouveau. Tu amènes un aspect nouveau ce matin qui est fort intéressant, l'aspect de l'OIF aussi. Parce que là, eux aussi se retrouvent quand même sans ville haute. Alors, leur choix va ressembler à quoi? Annuler les Jeux de la francophonie pour 2021? Accepter une candidature peut-être plus rapide de Sherbrooke? Ou quelles seront les autres options? Ça aussi, c'est un aspect intéressant.
Si finalement Sherbrooke, ça ne fonctionnait pas, bien là, la ville suivante qui pourrait faire connaître son intérêt ou la ville qui serait approchée peut-être même par l'OIF, on a parlé hier de l'Europe, du Maroc, aurait encore plus de levier pour négocier les exigences de l'OIF pour l'accueil des Jeux. Fait que, tu sais, que le gouvernement du Québec prenne en compte cette situation-là. En même temps, tu sais, le gouvernement fédéral semble beaucoup plus enthousiaste là, avec l'engagement de combler 50 % des coûts publics. Ça, en même temps, ce public-là, je n'ai pas creusé exactement ce que ça signifie. Mais,
c'est pas défini encore, c'est mon opinion.
C'est exactement, tu sais. Donc, là, il y a encore du mou dans l'affaire. Mais que Québec ait une position tout à fait raisonnable puis garde le gros bout de bâton, c'est une bonne chose, je pense. Puis on verra d'ici la fin de la semaine comment ça évoluera. Mais je pense que le conseil municipal a fait ce qu'il fallait. Puis on a quand même, tu sais, parce que le comité s'est mis en place rapidement, parce qu'il y avait Excellence Sportive Sherbrooke, tout ça, des groupes partenaires présents sur le comité, on démontre quand même qu'on est encore mobilisé, qu'on a l'intérêt, que la communauté sportive et sherbrookoise est derrière le projet. Fait que je pense qu'on a réussi à illustrer justement notre intérêt, notre capacité, sans pour autant, tu sais, que ça s'enflamme et qu'on s'embarque dans un projet dont on perd le contrôle à un moment donné.
Est-ce que ça pourrait être une patate chaude pour la CAQ? Et là, je m'explique. Mettons que tu refuses, là. C'est quand même pas particulièrement bien vu d'un point de vue public, surtout que t'as pas de ministre estrien, surtout que ton ministre délégué à la région en est un de l'extrémité des cantons de l'Est. Il me semble que ça pourrait avoir un drôle de message dans l'opinion publique de fermer la porte.
Bien, moi j'ai l'impression, honnêtement, je vois pas comment le gouvernement du Québec pourrait carrément fermer la porte. Je pense que tout va être... Tu sais, le gouvernement du Québec doit déposer la candidature de Sherbrooke. Mm-hmm. Je pense qu'il va le faire, mais ça va reposer dans les conditions dans lesquelles il va le déposer. Tu sais, le oui-mais, dans le fond. Comme Sherbrooke, hier, a fait un oui-mais, puis le mais, c'est 5,5 millions. Bien, moi, je m'attends à ce que le gouvernement du Québec fasse un oui-mais, mais que le mais soit probablement des coûts ou des exigences réduites de la part de l'OIF. l'OIF. Puis c'est l'OIF, finalement, qui portera sur ses épaules de choisir l'odieux. Est-ce qu'on va à Sherbrooke dans les conditions strictes que pourrait nous avoir mis la ville et le gouvernement du Québec, ou est-ce qu'on laisse tomber Sherbrooke et qu'on essaie de, de convaincre une autre ville de nous accueillir, ce qui ne sera pas plus simple, à mon avis. Mais ben ils doivent déjà, eux aussi, être en pourparlers avec certaines villes pour voir quelles seraient leurs options alternatives. Puis c'est cette décision-là qu'ils vont prendre à la fin de la semaine. Mais moi, je serais surprise que le gouvernement du Québec dise juste non. Je pense que le gouvernement du Québec va déposer une candidature avec des conditions serrées.
On va se retrouver bientôt peut-être avec un revirement de situation assez spectaculaire. On pourrait se retrouver avec des jeux de la francophonie d'ici quelques semaines comme décision finale à Sherbrooke, alors qu'on n'était même plus en lice, imagine.
Exactement.
Parlant de patates chaudes, André Lamontagne, le député Johnson de la Coalition Avenir Québec, qui est ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et ministre aussi responsable de la région du Centre du Québec, semble enfiler un petit peu les bourdes ces temps-ci. Il y avait l'histoire d'un congédiement
du lanceur d'alerte.
Du lanceur d'alerte la semaine dernière. Là, on a l'ayatollah, il a comparé à l'ayatollah,
les fonctionnaires du ministère de l'Environnement à des ayatollahs de l'Environnement. Écoute, ça, on peut dire que c'est un ministre sous surveillance. Là, je veux dire, il avait réussi par la façon dont il a géré le cas du lanceur d'alerte qui a été congédié juste avant la rentrée parlementaire. Il a réussi à être la vedette de la rentrée parlementaire la semaine dernière. Et là, il se remet dans une position avec une déclaration intempestive en fin de semaine. Il se remet en position d'être à nouveau la cible des partis d'opposition pour une deuxième semaine consécutive, semaine 2 à l'Assemblée nationale.
Isabelle
Donc,
Fontaine,
c'est vraiment,
je ferai pas de détour avec toi ce matin. Tu es spécialiste de l'image, tu es spécialiste des stratégies. Tu fais quoi avec André Lamontagne? Tu le dégommes ou tu y trouves quelque chose à faire d'autre?
Bien, en fait, il va être sous contrôle, sous surveillance. Là, on peut penser que le chef de cabinet du premier ministre et le chef de cabinet de M. Lamontagne se parlent, tu sais, probablement plusieurs fois par jour pour essayer de voir comment est-ce qu'on contrôle, comment est-ce qu'on aligne les réponses. Mais c'est difficile de le dégommer maintenant, hein, parce que là, on a déjà dégommé Mme Chassé. M. Lamontagne, on peut pas dire qu'on savait pas quel genre de personnage c'était. Il était député avant. Je pense que là, il va falloir que lui-même mette de l'eau dans son vin, accepte que écoute davantage ses conseillers, parce que j'imagine qu'on lui prépare des discours, tout ça, dans lequel on ne met pas ce genre de mots. Mm-hmm. Donc, soit un peu plus tenu serré par son équipe, accepte de l'être et sorte un peu moins et un meilleur contrôle de sa personnalité publique, puis qu'on essaie de durer au moins jusqu'à la fin de la session parlementaire, parce que là, ça devient vraiment... il devient un problème pour son gouvernement. Là.
Un peu moins de sorties dans les restos de Québec puis pour des soupers de spaghettis dans les prochaines semaines et peut-être plus de sorties express dans l'Est et dans le Nord du Québec.
Oui, exactement. Puis peut-être, tu sais, se concentrer sur les relations, il est à l'agriculture, les relations avec les joueurs du milieu agricole, avec l'UPA, là, il était à l'Union paysanne, tu sais. Qu'un ministre de l'Agriculture se présente à l'Union paysanne sans poser de jugement sur le secteur, ça crée quand même souvent des tiraillements du côté de l'UPA. On les a pas entendus réagir à quoi que ce soit. Mais en même temps, je pense qu'il s'est mis dans l'eau chaude. Je pense aussi que, tu sais, il met son collègue de l'environnement dans une position un peu délicate, qu'il est là depuis tout juste quelques semaines, tu sais. Donc, je pense que... Ouais. Tu peux prendre une bonne respiration puis une petite pause. Là.
Merci beaucoup, Isabelle Fontaine.
À demain.
On se reparle demain. Bye-bye.